Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jonas. Jonas, son histoire, elle est racontée dans un petit livre dans l'Ancien Testament, parmi les 12 petits prophètes. C'est un tout petit livre, il ne fait que 4 chapitres, l'histoire est très courte et pourtant son histoire est très connue. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas, qui n'a pas voulu écouter Dieu, qui a voulu s'enfuir et s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Les enfants adorent cette histoire. Donc nous allons réfléchir un petit peu sur cette histoire de Jonas. Et pour commencer, je vais vous lire les premiers versets du livre de Jonas de l'Ancien Testament. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond, au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je me disais « Je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme.
Le livre de Jonas, situé dans l'Ancien Testament, fait donc partie du recueil des 12 petits prophètes. Mais, en tant que morceau de littérature, il relève d'un genre différent. L'histoire est brève, enlevée, 4 petits chapitres lus en moins d'un quart d'heure. Alors que les livres des prophètes sont essentiellement des recueils d'oracles, Jonas nous raconte les aventures d'un prophète qui commence par se dérober à la mission qu'il a reçue de Dieu. Nous avons bien plus affaire à un récit, une nouvelle, une sorte de conte biblique qui oscille entre la tragédie et la comédie. Mais Jonas est avant tout une histoire porteuse d'enseignements. Quelle est donc cette histoire? La plupart d'entre vous en connaissent le début. Elle fait partie de ces histoires bibliques que l'on nous a conté et que, à notre tour, nous contons aux enfants. Et si cette histoire est connue, c'est avant tout pour le séjour de Jonas dans le ventre de la baleine, ou plutôt du poisson et même de la poissonne. Mais le développement de l'histoire est souvent moins connu, car la parole divine va rattraper Jonas qui avait essayé de fuir. Elle va le conduire à Ninive, la grande ville.
Jonas est un Hébreu, comme il se présente lui-même. Il est fils d'Amittai. Son nom fait qu'on l'assimile à un prophète mentionné dans le livre des Rois, au deuxième livre des Rois, au chapitre 14, verset 25. En effet, il y a eu un prophète appelé Jonas qui a vécu sous le règne de Jéroboam II. C'était entre 783 et 743 avant Jésus-Christ. À une époque où le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, était menacé en tant qu'État, et il devait se battre contre son grand voisin assyrien, qui, après lui avoir infligé des défaites, devait prendre la ville de Samarie en 722 avant Jésus-Christ. Mais le déclin politique d'Israël correspondait également à un déclin religieux, et les peuples se livraient souvent à des cultes idolâtres. Qu'on assimile l'auteur du livre de Jonas à un prophète qui lui est antérieur d'au moins deux siècles est très significatif. Car Ninive, la capitale de la Syrie, où Jonas va être envoyé pour prophétiser, est vraiment la ville d'un ennemi très ancien et très puissant. Elle symbolise à la fois l'idolâtrie et l'injustice sociale.
Il faut encore préciser que Jonas signifie en hébreu « colombe ». La colombe évoque certes l'oiseau lâché par Noé, qui revint annoncer la fin du déluge, une feuille d'olivier dans son bec. En cela, elle est symbole de ce qui relie le ciel et la terre, et c'est exactement là le rôle du prophète. Mais la colombe est aussi un animal stupide par excellence. Osée chapitre 7, verset 11, par exemple, on voit dans son nom même inscrit une certaine ambivalence. D'autant que Jonas est fils d'Amittai, ce qui signifie « Dieu est vérité, Dieu est fidélité ». Donc nous voici avec ce Jonas colombe, fils de Dieu et vérité, un homme plongé dans l'histoire difficile de son temps. Et son histoire personnelle va l'amener à une découverte personnelle qui est ce Dieu vérité. Comme les autres prophètes bibliques, Jonas reçoit un appel et une mission à accomplir de la part de Dieu. Il est donc envoyé chez l'ennemi héréditaire pour faire entendre à ses oreilles le cri de Dieu. « Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » L'ordre est bref, concis, et la fuite immédiate de Jonas nous alerte sur l'importance et la gravité de cette décision divine. La fuite de Jonas n'est pas une simple désobéissance. Elle traduit un dilemme fondamental devant la parole de Dieu. Et la désobéissance de Jonas s'accompagne de sa descente inexorable. Ce n'est pas Dieu qui le fait descendre, mais bien lui. Descente qui se termine dans le ventre d'un poisson au fond de la mer. Jonas, par son attitude, va se retrouver au fond du fond. Il descend à Jaffa, il descend au fond du bateau, puis au fond du ventre, et enfin au fond de la mer.
Il faut comprendre que Jonas prend tout à fait au sérieux la parole de Dieu. Pour lui, lorsque Dieu a parlé, rien ne peut l'infléchir. Peut-être est-ce aussi le sérieux de cette attitude qui va être dénoncée. Il est tellement attaché, collé à des images de Dieu, de sa mission, qu'il est incapable de prendre du recul. Et c'est donc par une dose d'humour que tout va se décoincer. Et dans ce récit de Jonas, l'ironie principale est dans le décalage entre la réaction du prophète et celle des païens, représentés ici par les marins, qui eux comprennent bien mieux que lui, Jonas, qui est juif. On va retrouver cela aussi dans les évangiles. Le dilemme de Jonas le rendait muet devant Dieu, le portait à la fuite, le conduit même à choisir la mort plutôt qu'à assumer sa mission prophétique. Le dilemme des marins les conduit à la parole et à la prière. Et comme ils choisissent la vie et non la mort, ils jettent finalement Jonas à la mer. La scène se termine sur une offrande à l'Éternel, par ces païens qui demandent pardon et pour le geste qu'ils viennent de faire. Ce n'est qu'en désespoir de cause et en s'adressant au Dieu de Jonas pour obtenir son absolution qu'il jette finalement Jonas à la mer. Mais Jonas ne manque pas ici d'un certain panache. Il accepte son sort et c'est une chance. Il va découvrir le visage de Dieu. Et c'est au fond de la baleine que Jonas va crier et que Jonas va prier.
Le Grand Ciel, nous vous parlons aujourd'hui de Jonas. Les intermèdes musicaux sont de Vangelis 1492, que vous avez dû reconnaître. Donc le psaume que nous avons lu tout à l'heure, il peut paraître étonnant de le trouver ainsi intercalé dans l'histoire de Jonas. Faites l'expérience. Vous pouvez lire le récit de manière continue en faisant abstraction de ce chapitre et tout reste fluide, compréhensible. Mais en réalité, comme bien des choses qui, dans une logique productiviste, peuvent paraître superflues, voire gênantes, il me semble que ce psaume, ce chant, est probablement le cœur même du petit livre prophétique. Un chant qui donne une tonalité à l'ensemble de cet écrit. Sans lui, il serait un conte humoristique, ce qu'il est aussi par ailleurs, mais il ne serait pas un livre prophétique. C'est dans le ventre de ce poisson, dans ce lieu de confinement, que notre petit Jonas va faire une expérience primordiale. Au corps même du Sheol, du séjour des morts, Jonas trouve la vie. Ce ventre de tombeau se transforme en matrice. Peut-être est-ce pour cela que le narrateur emploie le mot de poissonne. Jonas, dans le ventre matrice de la poissonne, pria le Seigneur.
La prière de Jonas s'inscrit dans la tradition de la prière biblique. Jonas se trouve dans une situation inédite. Et au cœur de sa détresse, il parvient à dire sa douleur dans des mots très personnels. L'aveu de son insécurité totale, coupé de ses repères culturels et cultuels, lui confère une dignité, une épaisseur qu'il n'avait pas avant et qu'il ne retrouvera plus. Il est dans la simple reconnaissance de ses limites et de ses failles. C'est aussi ce psaume qui sauve Jonas dans ce récit. Et par sa prière, il rend la suite possible. Au fond du ventre de ce gros poisson, il est coupé de tout, des autres, de la vie et de Dieu. Mais en priant, il va rester en relation malgré tout, contre tout. Par sa supplication, il dialogue avec Dieu. Et Dieu saura lui répondre. Jonas, par la prière, part à la rencontre de Dieu. Oui, mais de quel Dieu? Ou plutôt, quelle image de Dieu a-t-il encore à la sortie du ventre? Dieu a été compatissant pour lui. Il s'est montré le Dieu de tous les retournements possibles. Jusqu'où Jonas est-il capable de les accepter? C'est un peu la question à laquelle tente de répondre l'histoire.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie vers elle, proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une très grande ville, longue de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche, et il criait ces mots, « Encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait alors si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.
Voilà, dans ce récit du chapitre 3 du livre de Jonas, nous avons donc la suite de cette histoire. Et ce chapitre 3 semble recommencer, puisque le récit repart avec le même ordre du Seigneur, ordre auquel Jonas avait refusé d'obéir. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Mais en réalité, rien ne recommence comme avant. Car si le diable se cache dans les détails, c'est également dans les détails que Dieu peut se dévoiler. Et le lecteur attentif peut remarquer que l'ordre adressé à Jonas est sensiblement différent. La proclamation n'est plus contre Ninive, mais vers Ninive. Et le contenu de cette proclamation n'est plus indiqué. L'histoire du grand poisson était difficile à avaler. Mais l'épisode de la rapide conversion des Ninivites l'est encore plus. On croit rêver. Comment une telle histoire est-elle possible? Quelle est sa crédibilité? Derrière ces invraisemblances, qui nous semblent presque plus relevées du genre de la tragicomédie que de la littérature biblique, se pose un questionnement profond. Qui peut se convertir? Et ici, la réponse est étonnante. Ce sont bien les Ninivites, des païens, qui plus est des idolâtres, des mécréants, des étrangers qui vont reconnaître le Dieu d'Israël comme vrai Dieu. On retrouve l'universalité du message de Dieu que nous avions déjà rencontré avec la réaction des marins qui se mettent à offrir des sacrifices. Mais ici, ce sont les habitants de Ninive, jusqu'au roi, qui vont faire des sacrifices. Car la conversion, ce retournement complet, nécessite des sacrifices. On ne passe pas d'un système à l'autre sans dommage, sans difficulté.
Et ensuite, cette histoire nous dévoile Dieu bien autrement. Qui est Dieu? Depuis le début du livre, nous avons une image de Dieu qui est conforme à ce Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu qui juge, qui annonce la destruction. Il y a même des méchants, les Ninivites, les habitants de cette grande ville de Ninive, qui a été l'un des pires ennemis d'Israël. Elle a écrasé la Samarie et en a déporté la population. Elle a été brutale, sanguinaire, injuste. Et lorsque nous lisons et que nous nous laissons prendre par l'histoire, nous attendons même peut-être avec une impatience un peu malsaine, les conséquences de l'annonce pour Ninive. Et l'on risque même de se réjouir d'avance des effets spéciaux et les sensations procurées par la juste vengeance de Dieu vis-à-vis des méchants. Mais n'est-ce pas une compréhension fondamentalement inadéquate de Dieu et de ses desseins? Car si l'échec de la fuite de Jonas nous a appris que Dieu est intraitable dans l'exécution de sa volonté, nous sommes en droit de penser que l'oracle porté par le prophète sera suivi d'effet. Et pourtant, c'est la foi et l'inattendu qui prennent la place de l'excitation et de la violence, d'une sorte de remake de Sodome et Gomorre.
La réponse des Ninivites est sans précédent dans la tradition prophétique. À peine Jonas entre-t-il en ville et prononce-t-il 5 mots d'hébreu qu'il donne le signal de la réforme la plus forcenée dont on ait jamais entendu parler. Et dans une scène tout à la fois comique et touchante, imaginez toute la population, jusqu'aux animaux, recouverts de sacs. La ville pécheresse se met sans dessus-dessous. Par Jonas, Dieu a crié sur Ninive, et voici que Ninive va crier vers Dieu. Les Ninivites se sont détournés du mal, et maintenant, Dieu va se détourner du mal qu'il avait prévu pour la ville. Ainsi, à l'arrivée, les identités sont modifiées, et le Dieu vengeur devient le Dieu miséricordieux.
Mais Jonas ne peut l'accepter, et c'est même pire, il ne peut se convertir. L'histoire aurait pu en rester là, et c'était très bien. Alors pourquoi rajouter ce chapitre 4, où l'on voit Jonas en pleine dépression, alors qu'il aurait dû se réjouir du résultat de sa prédication? Et là, il faut encore que Dieu vienne le bousculer, l'enseigner, lui faire comprendre ce qui lui manque. Il lui manque la foi. La foi, il l'a peut-être, mais la découverte d'un Dieu de compassion l'éprouve. Il lui fait donc apprendre que si la foi est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il faut encore être capable de compassion et d'amour pour ses contemporains.
Le livre de Jonas se termine de manière abrupte, sur une question à Jonas. Et ça nous rappelle aussi que Dieu nous questionne. Et moi, n'aurais-je pas de compassion pour les habitants ? Cela n'aura de cesse de nous rejoindre tout au long de nos existences. Découvrir que Dieu aime les humains, tous les humains, et nous invite à l'accepter et à faire pareillement. Sommes-nous également capables d'aimer nos prochains ? Sommes-nous prêts à mettre cette exigence au cœur de nos préoccupations ? Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Et nous serions très heureux de vous accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.